Paris,
onde os termômetros
Accent du monde. Adrien Delgrange.
Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans Accent du Monde sur Radio France Internationale. Autour de la table, Raphaël Morand, journaliste à la rédaction Amérique Latine d'RFI.
Buenas noches.
Vous allez nous emmener en Colombie où des milliers de personnes manifestent dans les rues de Bogota, Medellín ou Cali contre la politique du président Ivan Duque. À côté de vous, Miguel Martins, journaliste à la rédaction portugaise d'RFI.
Buenas noches.
Et nous irons avec vous en Guinée-Bissau pour évoquer le deuxième tour des élections présidentielles prévu dans un mois. Pisey Mam, journaliste à la rédaction cambodgienne d'RFI.
Sousday.
Vous nous parlerez d'une triste nouvelle qui a frappé le Cambodge. Le décès de la princesse Norodom Bopatevi, c'est la grande sœur du roi actuel du Cambodge. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Merci d'être présents autour de cette table. Avant d'évoquer tous ces sujets, un autre sujet, hélas, commun à tous nos pays. Les violences faites aux femmes. En France, au moins 137 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Samedi dernier, de grands rassemblements ont eu lieu un peu partout dans le pays, comme à Paris, place de la Nation. Et cette semaine également sur le continent sud-américain aussi, du Mexique à l'Argentine, des milliers de femmes sont également descendues dans les rues pour dire basta, basta au machisme. Raphaël Morand, votre rédaction s'est penchée également sur le sujet.
Oui, Adrien, on va commencer par écouter ce chant qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux cette semaine. Des dizaines de femmes au Chili mobilisées, des dizaines de milliers de femmes au Chili mobilisées pour alerter la société avec ce happening aux paroles fortes sur la responsabilité des juges, de la police, de l'État qui, par son laxisme, laisse les crimes et délits impunis contre les femmes.
Alors, Pisey Mam, le Cambodge n'est pas épargné également par ces problèmes de violence sur les femmes. Vous avez un chiffre qui illustre ces violences au Cambodge ?
Non, Adrien, malheureusement, nous n'avons pas de chiffre officiel concernant les violences faites aux femmes au Cambodge. Le gouvernement cambodgien n'a jamais eu une sérieuse intention de faire ce genre d'études, que ce soit la police ou le ministère des Affaires des Femmes. Personne ne peut nous renseigner sur ces chiffres. D'après les ONG, nous avons quelques chiffres concernant uniquement les violences faites aux jeunes filles mineures. En 2018, il y a 110 cas, dont 90 ce sont des cas de viol et 8 cas ce sont des viols plus homicides. Selon les ONG, les cas de violences sur les jeunes filles mineures sont un peu plus faciles à recenser car souvent les familles des victimes cherchent à dénoncer à la police, alors que les violences faites aux femmes, en général les violences domestiques ou conjugales, les femmes victimes elles-mêmes ne dénoncent pas leur agresseur ou alors très très rarement.
Alors pour l'éradication de violences faites aux femmes, à la rédaction en portugais, Miguel Martins, vous avez mis cette année l'accent sur le cas du Mozambique.
Exactement, Adrien, un pays très étendu en Afrique de l'Est où la femme doit se bagarrer tout le temps pour surmonter bien des écueils. Je vous propose d'écouter Conceita Sertan, la ministre de l'Éducation, interviewée ici à Paris, nous rappelait qu'il faut faire un pari justement sur l'éducation des femmes. Écoutons-la.
Este desafio coloca a própria comunidade a valorizar o papel da mulher, o papel da rapariga.
Alors que vous disait Miguel, la ministre mozambicaine de l'éducation ?
Conceita Sertan nous disait que pour en finir avec les violences contre les femmes, il faut mettre en valeur le rôle qu'elles ont au sein de la société. Il faut tout d'abord qu'elles puissent être scolarisées afin d'assurer son indépendance ainsi que l'avenir de la communauté et de la société en général. Et là, si l'on éduque une femme, c'est toute une nation qu'on est en train d'éduquer. Donc cette démarche est synonyme de progrès pour arriver à des paliers de développement plus conséquents. Pour elle, la femme est l'un des plus grands défis qui se posent au développement de son pays.
Alors, dans l'exemple du Cambodge, Pisey Mam, dites-nous pour quelles raisons, la plupart du temps, les femmes violentées ne rapportent pas ces violences aux autorités ?
Il peut y avoir plusieurs raisons, Adrien. D'abord, c'est culturel. Les femmes khmères, les femmes cambodgiennes sont très soumises et duées à la famille et donc au mari ou à leurs membres masculins de la famille. La honte et la peur d'être jugées par les autres constituent aussi un frein pour que ces femmes puissent avoir le courage de dénoncer. Il faut savoir que les violences surviennent souvent dans les bidonvilles et aussi les campagnes rurales où le niveau d'éducation est très bas et que les regards collectifs dans les villages jouent un rôle primordial dans chacune des décisions. Une autre raison, et pas la moindre, c'est que les victimes n'ont pas de confiance aux autorités. Très peu de cas que les poursuites puissent entamer jusqu'aux arrestations des agresseurs. Le système policier et judiciaire cambodgien sont tellement corrompus que les victimes n'osent pas s'exposer en public et perdre de l'argent dans ce genre de procédure. Nous allons écouter Mme Chum Chenyang, une représentante d'une ONG travaillant pour la lutte contre la violence faite aux femmes, qui explique que le problème du Cambodge, c'est l'absence de l'application de la loi. Alors, elle explique que la loi anti-violence conjugale a été adoptée en 2005, mais depuis, le cas de violence ne cesse d'augmenter. Elle dit qu'il est incontestable que cette loi n'a pas été respectée. Il s'agit d'un échec total pour le gouvernement cambodgien qui ne peut pas lutter contre ces violences et protéger les femmes. Selon elle, les violences faites aux femmes sont de plus en plus cruelles avec l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux et aussi l'accès plus facilement aux sites pornographiques.
Alors, à l'autre bout du monde, en Amérique latine, le pays qui affiche cette année les pires chiffres en matière de crimes contre les femmes, eh bien, c'est le Mexique, Raphaël Morand, avec 10 femmes assassinées chaque jour en moyenne, selon des chiffres de l'ONU.
Oui, près de 3500 femmes assassinées l'an dernier au Mexique. Le pays a pourtant un arsenal législatif adapté. Il reconnaît les féminicides comme un crime grave. Alors, pourquoi est-ce que les chiffres ne baissent pas? La réponse avec une spécialiste de la question, Maria Salguero, au Mexique. Elle explique que les victimes ne sont pas entendues à cause des stéréotypes machistes. Et là, on en revient à ce que disait mon collègue cambodgien. Au commissariat, lorsque les femmes portent plainte pour violence, certaines femmes se voient encore souvent répondre « Mais qu'avez-vous fait à votre mari pour qu'il vous frappe ?» Ce qui décourage les victimes à porter plainte et entretient l'impunité.
Alors, face à la société qui se mobilise à plusieurs niveaux, le maire de Mexico a décrété l'alerte contre les féminicides, un mécanisme politique réclamé de longue date par les groupes féministes.
Oui, l'alerte de genre. Les assassinats de femmes ont augmenté de 10% ces derniers mois dans la ville de Mexico. Du coup, le gouvernement local a enclenché ce dispositif. En fait, il permet de débloquer des fonds gouvernementaux pour améliorer, par exemple, l'éclairage public, augmenter les patrouilles de police, créer des unités de protection des femmes dans les administrations publiques. Et surtout, le plus important, former et sensibiliser les policiers à recevoir les plaintes des femmes victimes de violences pour en finir avec les réflexes machistes dont on parlait un peu plus haut. La société, pour sa part, n'a pas attendu cette décision. Des campagnes d'affichage ont été lancées dans le métro contre les attouchements, par exemple à Mexico. Et plus récemment, certaines femmes se sont mises à prendre des cours de self-défense carrément pour s'affirmer, répliquer en cas d'agression physique. Le mouvement féministe aussi est beaucoup plus visible dans la rue avec une série de mobilisations, parfois accompagnées de dégradations des symboles de la ville de Mexico, comme le monument à l'indépendance qui a été gradé 2 fois. Ça a suscité beaucoup d'indignation, mais les femmes mobilisées, elles, justifient ce geste. Sans cela, on ne nous écoute pas.
Alors, dans l'exemple du Mozambique, Miguel Martins a noté qu'en septembre dernier, on a célébré les 10 ans d'une loi pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Exactement, Adrien, et la juge Vitaline Napapadakis nous disait à notre reportage à Maputo que le bilan est assez positif. Écoutons-la. Vitalina Papadakis nous faisait part du fait que le bilan était assez positif, en effet, parce que ce dispositif légal a permis que la société débatte d'un sujet jusque-là perçu comme étant restreint au couple. Les femmes ont pu saisir que la violence conjugale n'était pas moins de la violence, que ce soit des agressions physiques ou de la violence morale ou psychologique. La femme comprend maintenant que la loi la protège et lui permet de se défendre et d'exiger également que les agresseurs rendent des comptes par rapport à leurs actes.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Adrien Delgrange.
Sur Radio France Internationale, direction la Colombie, où comme au Chili, en Irak, au Liban, des milliers de personnes sont descendues dans la rue contre la corruption et l'injustice sociale et économique. Raphaël Morand.
Oui, jeudi dernier, le président de droite, Iván Duque, a affronté une autre grande grève générale contre sa politique. Cette mobilisation est vraiment unique. Depuis 1977, on n'avait pas vu ça en Colombie. Étudiants, syndicats, travailleurs, gros représentants des Afro-Colombiens, des peuples originaires étaient dans la rue ensemble. Ils ont bloqué les routes, les réseaux de transport et ils ont manifesté avec des revendications dont nous parle l'un des responsables de la centrale unitaire des travailleurs, la CUT, le colombien, Fabio Arias. On l'écoute.
Le thème de l'assassinat des leaders, les lideresses sociales.
Il explique que le Comité national de grève se mobilise contre les assassinats de leaders communautaires, des paysans, des écologistes ou des candidats de gauche, par exemple. Des assassinats qui ont augmenté depuis la signature des accords de paix avec la guérilla des FARC en 2016. Pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement colombien a échoué à les protéger comme il s'y était engagé dans les accords de paix. Sur le plan social, Adrien, les manifestants exigent aussi le retrait d'une série de mesures d'inspiration néolibérale, comme une réforme fiscale en faveur des plus aisés, l'augmentation des tarifs d'électricité ou la privatisation d'entreprises publiques. Il y a 13 revendications au total, qui incluent aussi la dissolution de la ESMAD, l'escadron mobile anti-émeute, aux pratiques très controversées. La colère des jeunes manifestants colombiens a redoublé cette semaine avec la mort d'un manifestant de 18 ans, le jeune Dylan Cruz, qui lundi dernier est décédé après avoir pris dans le visage une balle d'un fusil anti-émeute tiré par la police. Ces armes qui font aussi des ravages au Chili, un autre point chaud de la contestation sociale sur le continent, où près de 300 manifestants ont été mutilés au niveau des yeux. Alors la police affirmait que ces balles en caoutchouc étaient uniquement composées de caoutchouc, mais des études révèlent qu'elles contiennent également des billes de plomb, et c'est l'une d'elles qui a tué ce jeune Dylan en Colombie.
Et puis à noter que le président Iván Duque, au début de son mandat, il y a un an et demi, il réunit aujourd'hui contre lui un taux de mécontentement de plus de 69% de la population, selon les sondages. Au Cambodge, disparition de la princesse Norodom Bopatevi, marraine du ballet royal du Cambodge. Le 18 novembre, le Cambodge a été frappé par cette triste nouvelle. C'est la grande sœur du roi actuel du Cambodge, Pizaimam. Expliquez-nous qui est cette princesse.
La princesse Norodom Bopatevi, fille aînée du feu roi Norodom Sihanouk, est très connue au Cambodge. Elle est décédée dans un hôpital à Bangkok à l'âge de 77 ans suite aux problèmes de santé. La princesse est connue pour sa beauté et surtout pour son amour, sa passion de la danse classique Khmer. Première étoile du ballet, elle incarnait la grâce et la beauté des femmes Khmer. Dans les années 60, la période où son père, le roi Sihanouk, régnait, elle avait ébloui les yeux du public dans plusieurs grandes capitales, avec notamment la célèbre danse des Apsaras.
Alors, dites-nous quelle est la musique là que l'on entend.
La musique qu'on vient d'entendre, c'est la musique Penpit, une sorte de musique classique cambodgienne qui accompagne les danses et les ballets narratifs cambodgiens. Là, c'est la danse des Apsaras. Cette danse est inspirée des Apsaras sculptées sur le bas-relief du temple d'Angkor. Cette danse, dansée par la princesse Bopatevi, est devenue la danse emblématique de la culture du peuple Khmer, le peuple bâtisseur des temples d'Angkor.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette musique classique cambodgienne a failli disparaître à cause du régime génocide installé par les Khmers Rouges.
Non seulement la musique, mais aussi la danse. En effet, pendant le régime des Khmers Rouges, entre 1975 et 1979, la danse a été interdite, dont la musique aussi. Et la plupart des anciennes danseuses ont été massacrées. Et lorsque la paix relative a été rétablie au début des années 90, la princesse Bopatevi, ainsi que quelques anciennes danseuses rescapées, ont beaucoup œuvré pour construire le ballet, former les nouvelles danseuses et constituer reconstitué le répertoire. En 2013, le Ballet Royal du Cambodge a retrouvé toute sa splendeur et a été classé par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Et l'année dernière, elle avait créé une chorégraphie inspirée des dessins de Rodin, sachant que en 1906, le roi Sisowat était venu en France accompagné de sa troupe de danseurs. Rodin avait été capturé par la beauté des gestes des danseuses Khmer et avait réalisé beaucoup de dessins. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces dessins au musée Rodin.
Merci beaucoup Pisay Mam, journaliste à la rédaction cambodgienne des RFI. La Guinée-Bissau va se rendre aux urnes le 29 décembre prochain pour le deuxième tour des élections présidentielles. Un pays qui est tenu en haleine, qui retient son souffle, Miguel Martins, après l'annonce ce mercredi de l'affiche de ce duel dans les urnes de deux anciens premiers ministres.
C'est exact, Adrien. D'un côté, il y aura Domingo Simões Pereira, le président du PAIGC, le parti historique par excellence de ce petit pays ouest-africain qui a obtenu 40% des voix. Il sera opposé à Oumaru Sissoko Embalo, qui a réussi à faire 27% des voix, et ce, appuyé par le MADEM G15, une jeune formation politique issue de dissidents du PAIGC, au gré d'une scission provoquée notamment par le contentieux qui a opposé Pereira au président sortant.
Alors on fait allusion là à José Mario Vaz, qui est donc l'un des principaux perdants de ce scrutin.
Tout à fait, Adrien. Vaz était l'un des 12 candidats du premier tour de dimanche dernier. Là, il n'est arrivé qu'en quatrième place, même s'il restera dans l'histoire comme le premier président ayant réussi à venir à bout de son mandat. Il aura eu un total de 8 premiers ministres, une instabilité dont il a été à l'origine et qui a pu lui coûter une place au deuxième tour. C'est du moins ce que nous disait un historien Bissau guinéen. Je vous propose de l'écouter.
Tendo em consideração o resultado que teve nestas eleições, o que não é muito, muito comum, porque...
Alors, que dit votre interlocuteur Miguel?
Julião Souza nous disait que la présidence de José Mario Vaz avait été particulièrement agitée. Il a donc nommé 8 premiers ministres, notamment une situation rare dans ce pays de la taille de la Belgique. Mais il aura été également le chef de l'État ayant reçu le plus d'insultes pendant son mandat. Il ne part donc pas la tête haute de la présidence de la République, c'est plutôt un camouflet qu'il a enduré dans les urnes au dimanche dernier, au point d'être parmi les rares présidents africains qui ne réussissent pas à se faire réélire pour un deuxième mandat.
Alors, que peut-on attendre du deuxième tour en Guinée-Bissau? Est-ce que, là aussi, Miguel, la question ethnique peut jouer un rôle important?
Voilà, la question est là. Quels seront les soutiens des protagonistes du deuxième tour par rapport aux 10 perdants et dans quelle mesure le critère ethnique peut être une clé du scrutin? Écoutons la réponse de Julian Souza.
Uma luta que vai ser muito renhida. O Mário Sissoko Embalo, se conseguir concitar os apoios, quer do Nuno Nabian, quer do presidente Sassante, eventualmente...
Alors, que dit Miguel, cet historien bissau-guinéen?
Il nous disait que Domingo Simões Pereira est de l'ethnie balante dans l'Ouest, l'une des plus importantes du pays. En plus, derrière lui, il peut compter sur l'appareil de son parti, le puissant PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, légitimé par la conquête de l'indépendance. Il ne faut jamais le sous-estimer, explique Julian Souza. Son rival, Oumaru Sissoko Embalo, est Peul, un groupe ethnique parmi les plus importants, notamment dans l'est du pays. Et ses résultats du premier tour prouvent qu'il y a une forte assise dans cette région du pays. En théorie, celui-ci, s'il arrive à décrocher le soutien des troisième et quatrième candidats les plus votés, pourrait même l'emporter, du moins sur un plan arithmétique. Il n'est cependant pas acquis que le report des voix du président sortant, notamment, se fasse pour renforcer Embalo. Tout est donc très ouvert à ce stade et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et toute la communauté internationale seront particulièrement attentives à la Guinée-Bissau, notamment la CEDEAO qui a été très active dans la gestion des crises à répétition du pays. Voilà ce que l'on peut dire donc pour la Guinée-Bissau qui est donc tenue en haleine. Le scrutin aura lieu donc au mois de décembre.
Et le 29 précisément, et Radio France Internationale sera là pour informer nos auditeurs. Merci à vous Raphaël Morand, Miguel Martins, Pisay Mam. Mise en onde de cette émission, Valentin Vaner, rédaction en chef Jacques Alix. Et la semaine prochaine, Philippe Le Caplin pour un nouvel accent du monde sur Radio France Internationale.